Bonjour mes frères et mes sœurs. Nous vivons dans une période stressante. Je pense que nous voudrions tous avoir l'aide et la direction de Dieu. La prière est la façon comment nous demandons l'aide et le conseil de Dieu. Sommes-nous en train d'accomplir quelque chose de bien dans nos prières ou allons-nous simplement de façon machinale, par habitude? Quels sont les points prioritaires sur lesquels nous devrions prier à ce moment présent? Aujourd'hui, je voudrais suggérer premièrement trois sujets prioritaires parmi des centaines de sujets possibles sur lesquels vous et moi devons prier. Ces points s'appliquent le plus à l'époque de la fin, à l'âge où nous vivons. Je souhaite également couvrir en deuxième comment prier. Et troisièmement, notre rôle de prêtre royal dans la prière. Le titre du sermon, c'est « Priorité de la prière à la fin des temps pour les prêtres royaux » ou bien « Priorité de la prière ». Premier grand point. Avant de commencer par les points prioritaires spécifiquement du temps dont nous vivons, il faut qu'on se rappelle du modèle général que Jésus a donné pour tous les âges. Nous devrions tous connaître le modèle de prière que Jésus a enseigné à ses disciples. On le trouve dans Matthieu chapitre 6. Tournez avec moi à Matthieu chapitre 6. Et je commence verset 9. Rappelez, c'est le modèle. C'est le modèle. Ce n'est pas simplement pour répéter sans réflexion, mais c'est un modèle. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. La manière. Notre Père qui est aux cieux. Il est le premier. Il est le Dieu tout-puissant. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Nous demandons le règne du royaume de Dieu de venir sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et je pense que la plupart de nous, nous voudrions avoir notre pain assuré pour des mois ou même des années en avant. Mais parfois, il y a des personnes dans l'Église de Dieu qui ont de telles situations où le jour, leur pain quotidien est quelque chose, ils prient pour leur pain quotidien. C'est tellement difficile leur situation. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc nous devons avoir un pardon envers les autres. Nous devons avoir un esprit de pardon, un cœur bien disposé pour pardonner aux autres. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Que c'est à toi qui appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà, c'est le modèle, c'est une esquisse, une prière avec des points généraux. Et nous devons remplir ces points généraux avec des détails. Dieu voudrait pour nous de prier en détail. Et je peux faire une petite analogie. Quand j'étais jeune, j'avais un petit laboratoire chez moi et j'ai eu un petit masse ou bloc de cuivre. Et j'ai mis ça dans le feu et ça n'a pas réagi beaucoup. Mais j'ai trouvé que si j'ai mis le cuivre en poudre très fine, et j'ai jeté la poudre de cuivre sur le feu, il y avait cette grande couleur de vert. C'était très merveilleux. C'était grandement différent. La poudre, c'était très quelque chose de bon, de plaisant. Mais cette petite bloc, ça n'a pas réagi, ça n'a pas donné beaucoup. Et on peut faire l'analogie que si on prie, « Oh oui, Dieu, donne-moi un travail. » « Oh Dieu, donne-moi une femme. Dieu, donne-moi ceci ou cela. » C'est comme le petit bloc de cuivre qui ne réagit pas beaucoup, qui ne plaît pas à Dieu beaucoup. Mais si vous priez en détail sur votre recherche pour un travail, si vous priez en détail pour votre recherche pour une femme ou un mari, ou quelque chose comme cela, ça est agréable à Dieu. Priez en détail. Ne répétez pas ce modèle sans réfléchir, mais utilisez ça comme un esquisse avec des points généraux et remplissez avec détail. Ok. Allez avec moi à Matthieu 24. Matthieu 24, la première grande suggestion. Première grande suggestion, nous trouvons Matthieu 24 et verset 20. Matthieu 24, verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. C'est Jésus-Christ qui a ordonné ça. C'est Jésus-Christ qui a commandé ça. Priez, vous et moi, prions pour que notre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Est-ce que vous priez cette prière chaque jour? Moi, je prie cette prière chaque jour. Cela devrait faire partie de nos prières quotidiennes parce que nous approchons rapidement le moment où la grande tribulation viendra en tant que juste jugement de Dieu sur nos nations qui pêche grandement contre Dieu. Nous notons que même au moment de la fin, le sabbat doit être sanctifié. Donc il faut continuer à garder le sabbat saint. Parce que si nous sommes en train de fuir et nous avons toutes ces choses, comment est-ce que nous pouvons vraiment observer le sabbat dans une attitude de paix et comme Dieu voudrait pour nous d'observer le sabbat? Nous voyons aussi que le moment ou l'heure pour fuir vers le lieu de refuge n'a pas encore été déterminé. Je parle à des personnes qui connaissent la Bible et vous connaissez quand la Bible parle de votre fuite. Cela veut dire notre voyage vers la place de refuge. Quand Dieu va nous donner cette compréhension, cette connaissance où se trouve la place de refuge, Dieu va aussi nous donner les moyens, le temps, le heure, le moment nécessaire pour nous de commencer ce voyage. Mais nous voyons que, comme j'ai dit, le moment pour fuir vers le lieu de refuge n'a pas encore été déterminé. C'est pourquoi Dieu dit, priez que ça n'arrive pas en hiver. S'il faisait froid, par exemple, neigeux ou pluvieux, ce serait beaucoup plus difficile pour des femmes ayant des petits-enfants et des personnes âgées. Vos prières pourraient aider à faire la différence lorsque Dieu permettra aux choses de s'écraser et rend nécessaire la fuite. Vous pouvez faire une différence. Si vous priez chaque jour au Dieu, ne faites pas nécessaire que nous fuyons vers la place de refuge en hiver ou dans un temps pluvieuse ou neigeuse. Vous pouvez faire une différence ici. Dieu le dit. S'il vous plaît, implorez Dieu à ce sujet chaque jour. Deuxième grande suggestion en Luc 21. Luc 21. Luc 21, verset 36. Encore, c'est Jésus-Christ qui parle ici. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Dieu, Jésus-Christ, a lui-même dit, veillez donc et priez en tout temps, chaque jour, chaque jour, que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et la force peut être aussi compris comme être digne d'échapper à toutes ces choses. Toutes ces choses, bien sûr, parlent de la grande tribulation et le jour de l'éternel. Cette prière peut être couplée dans nos prières quotidiennes avec l'exhortation de Matthieu 24, verset 20. Notez qu'il dit toujours « prier », alors « prier chaque jour » à ce sujet. Mais que signifie « digne d'échapper » ou « avoir la force d'échapper » ? Laissons la Bible expliquer. Malachie chapitre 3. Et je commence verset 16. Malachie 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion de eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous voyons ici, digne, dans ce sens, avoir la force, signifie être, entre autres, de craindre Dieu. Craindre Dieu et obéir à ses commandements. Respectons Dieu et ne prenons pas son nom en vain. Si nous appelons chrétiens, nous devons refléter fidèlement le grand être qui est mort pour nos péchés et qui vit comme notre souverain sacrificateur, qui intercède pour nous auprès du Père et qui est le juste de toute l'humanité. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. Digne ou ayant la force peut aussi signifier d'avoir une communion avec d'autres croyantes. Nous pouvons donner la force les uns les autres si nous avons une communion, une communication avec les uns les autres. Notre force vient de Dieu, premièrement, d'avoir la crainte de l'Éternel. Mais aussi, nous pouvons encourager les uns les autres. Donc, nous devons avoir cette communication avec les autres personnes dans l'Église, les autres croyantes. Communiquez avec les uns les autres. Partagez votre foi, vos difficultés, vos triomphes avec les autres croyantes. Soutenez-vous les uns les autres. Nous devons aussi méditer sur le nom de l'Éternel. Honore le nom de l'Éternel. Pensez à son autorité. Pensez à son pouvoir. Pensez à sa fidélité, son pardon. Ceci est un comportement d'édification de la foi. Donc, honore son nom de l'Éternel. Pensez et méditez là-dessus. Ok, si nous retenons en Luc 21, 36, il y a aussi la phrase de paraître debout devant le Fils de l'homme. Paraître debout, qu'est-ce que cela veut dire? Paraître debout, tenez-vous devant le Fils de l'homme, qu'est-ce que cela signifie? L'exemple de l'Ancien Testament est celui des Lévites qui se lèvent ou tenir debout pour exercer leur ministère devant Dieu dans le tabernacle et le temple. Tenez avec moi en Deutéronome chapitre 10. Deutéronome 10. Et verset 8. Deutéronome 10, verset 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'Alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Alors, nous voyons que le tribu de Lévi était choisi par Dieu de se tenir devant l'Éternel. Le reste d'Israël, normalement, ils devaient être sur les genoux ou sur leur face, sur le visage, pour adorer Dieu. Mais les Lévites étaient là, ils se portaient debout pour faire le service du tabernacle et aussi le temple. Tournez avec moi à 1 Rois, chapitre 17. 1 Rois, chapitre 17. Et le verset premier, ça parle d'Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Élie était, il se tenait devant l'Éternel en tant que prophète. Il était un serviteur choisi par Dieu pour délivrer un message au roi d'Israël, Achab, et pour encourager les personnes qui étaient fidèles à Dieu. Alors, Élie, c'était un servant, un serviteur choisi par Dieu. Psaume 24. Je commence verset 3. Psaume 24, verset 3. « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. » Nous comprenons que les personnes qui seront choisies par Dieu pour lui servir en tant que prêtre royal dans le millénaire, seront des personnes qui ont ces qualités, des mains innocentes, le cœur pur, qui ne livrent pas leur âme au mensonge. Aussi, il y a des autres exemples en Gabriel, en Luc chapitre 1er, dans ce sens, c'était un ange qui était un serviteur choisi par Dieu de délivrer un message. Luc chapitre 1er, et verset 18. C'était l'histoire de Zacharie, il était le prêtre, et c'était annoncé qu'il va avoir un fils qui est devenu Jean-Baptiste. Luc, chapitre 1, verset 18, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, que je suis vieux et ma femme est avancée en âge? » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. » Il reste debout devant Dieu, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muette et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Alors, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que ceux qui se tiennent devant Dieu sont ses serviteurs choisis. Le reste de l'humanité devraient être à genoux ou sur leur visage devant Dieu. Ainsi, nous voyons que Dieu veut que nous soyons parmi ses serviteurs choisis, proches de lui et aidant à transmettre ses conseils, son aide et son message au reste de l'humanité. Veux-tu cela? Jésus nous demande de prier pour cet honneur, prier que nous pouvons nous tenir devant Dieu comme un serviteur choisi, un serviteur qui transmet le message, l'encouragement, l'aide de Dieu à le reste de l'humanité. C'est vraiment un grand honneur. Et le Christ dit, priez chaque jour de rester debout, de se tenir devant Dieu. Troisième grande suggestion. Nous sommes déjà en Luc. Tenez avec moi en Luc 18. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup, il y a centaines de choses pour lesquelles nous devons prier. Et j'ai choisi simplement trois que je pense reflètent la nécessité de l'âge dont nous vivons. Et en Luc 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et à la fin de cette petite histoire, la fin de verset 8, Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question. Nous vivons dans un âge où la foi, on se moque. On moque de les personnes qui ont de la foi en Dieu. Donc je pense et je suggère que nous devons demander à Dieu pour encore plus de la foi de Jésus-Christ de vivre en nous. La foi de Dieu de vivre en nous. Nous ne devons pas perdre le courage. En verset 6, le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Je pense que cela signifie que certains feront l'objet de persécutions. Et on va penser que bon, ça prend du temps pour Dieu de m'aider. Mais Dieu dit, il ne faut pas perdre la foi ni le courage, parce que Dieu va venger ses élus. Il y a maintenant des personnes autour du monde qui souffrent de la persécution, plus ou moins officiel. Il y a des personnes en Angola qui étaient là depuis le temps de l'Église universelle de Dieu, qui sont toujours là. Et j'ai entendu que le gouvernement d'Angola veut seulement permettre aux catholiques dans ce pays. Donc, ceux qui ne sont pas catholiques, on voudrait pour ces personnes d'abandonner ou conformer à le catholicisme. Alors, nous devons prier pour nos frères et nos sœurs dans une situation stressante, une situation de persécution. Dans, par exemple, Afrique du Sud, il y a des situations difficiles, civiles. Et nous devons prier pour la protection, la délivrance pour nos frères et nos sœurs dans les pays comme Afrique du Sud ou d'autres pays où il y a des problèmes. Ils ont besoin de protection, ou même de la capacité de sortir avant qu'il ne soit pas trop tard. Jésus trouvera-t-il vraiment la foi? Cela signifie qu'il y aura une réduction de la foi dans la population générale, je crois, lorsque le Christ viendra. Les conditions seront telles que nous pourrions nous demander, « Où est Dieu? Pourquoi je ne suis pas délivré? Que se passe-t-il? Pourquoi n'ai-je pas un bon travail? Pourquoi mon désir d'être marié est-il actuellement frustré? » Le diable essaierait de faire douter chacun de nous que Dieu se soucie de nous ou écoute nos prières. Chacun de nous ayant un ou plusieurs points faibles, et personne ne devrait penser qu'il est à l'abri de cette tentation. Dieu dit que cela ressemblera à une longue période de retard et de souffrance. Alors, s'il vous plaît, demandez à Dieu davantage de foi et de la sagesse, puis agissez conformément à la foi, à la patience et à la vertu divine. Deuxième grand point, comment prier? Premièrement, il faut avoir une bonne attitude avant même de commencer à prier. Encore en Luc 18, je commence verset 9. Il dit encore ces paraboles en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montrèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappa la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus insiste sur l'humilité et la repentance et met en garde contre la supériorité de soi-même sur les autres. Nous ne devons pas nous comparer avec d'autres êtres humains. Alors, il faut avoir bonne attitude d'humilité avant même de prier. Matthieu 18. C'est un long passage ici. Matthieu 18, verset 22. C'est la parabole... Je vais lire. Matthieu 18, je commence, verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, il faut pardonner, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Alors, attitude de pardon envers les autres, humilité. Verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. C'était une somme énorme, impossible à repayer. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Notez bien, le péché d'une personne peut affecter d'autres personnes, la femme, les enfants. Une personne qui fait le mal, ça affecte d'autres personnes. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui, dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, parce que Dieu est compatissant. Le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, qui lui devait 100 deniers. Un denier, c'était le salaire pour un jour de travail. Alors, cette personne lui devait peut-être 3 mois de travail. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience avec moi et je te payerai ». Mais l'autre ne voulut pas. Et il a le jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Notez ça bien. Il y a des personnes, ils regardent ce que nous disons, ce que nous faisons, et ils lancent des prières envers Dieu. Verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et notez ça bien. Oui, le mauvais serviteur, son péché, ses problèmes ont affecté des autres personnes. Mais le sort final de cette méchante serviteur était individuel. Son sort n'était pas le même de sa femme ou ses enfants, parce que ça dépend de leurs actions et leurs paroles. Verset 35, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Dieu répond à la prière d'une personne qui a l'esprit de pardon, si vous pardonnez de tout votre cœur. Comment assurer que Dieu considérera sérieusement nos prières? Bien sûr, l'humilité, la repentance, pas de haine ou désir de vengeance, un cœur qui pardonne et persistance sont nécessaires. 1 Épître de Jean, chapitre 5. 1 Épître de Jean, chapitre 5. Et verset 14. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui de cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons les choses que nous lui avons demandées, quelles que soient. Mais il faut demander selon la volonté de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons savoir la volonté de Dieu? Bien sûr, il faut étudier la parole de Dieu, étudier la Bible pour savoir quelle est la volonté de Dieu, quelles sont les promesses de Dieu que nous pouvons réclamer. Et aussi, 1 Jean chapitre 3, verset 22. 1 Jean chapitre 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce que lui est agréable. C'est très important. Bien sûr, il faut être obéissant aux 10 commandements, aux commandements de Dieu, mais aussi de faire ce qui lui est agréable. C'est très vaste. Dieu voudrait pour nous d'être généreux. Dieu voudrait pour nous de faire des bonnes actions envers les autres. Dieu voudrait pour nous de faire beaucoup de choses. Il faut louer le nom de l'Éternel. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses pour être agréable à Dieu. Nous recevons ce que nous demandons parce que nous obéissons à ses ordres, ses commandements, et faisons ce qui lui est agréable à ses yeux. C'est plus que simplement obéissance robotique. Psaume 119. Psaume 119 et verset 145. 145. Je t'invoque de tout mon cœur. Donc il faut prier avec tout votre cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statutes. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes, obéissance. Je devance l'horreur et je crie. J'espère en tes promesses. Donc, c'est quelqu'un qui a étudié pour savoir les promesses de Dieu. Et il a l'espérance, la foi en Dieu. Alors, priez de tout notre cœur et espérez en Dieu et obéis à lui. Psaume 37, verset 4. Je commence verset 3. Psaume 37, verset 3. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alors nous devons réjouir en Dieu. Et il va nous donner les désirs de notre cœur. Est-ce que vous croyez ça? Moi, j'ai vu dans ma propre vie les accomplissements de ce verset. Quand j'étais très jeune, j'ai voulu avoir un voyage à Kenya pour voir les animaux. Mais ce n'était pas possible. Je n'avais pas la finance. Je suis allé à Bastard College. C'était pas possible d'aller à Kenya à ce temps-là. Et après, je commence à travailler pour le gouvernement américain. Et nous étions en Cameroun à l'époque. Et le gouvernement américain avait décidé d'avoir une conférence pour les conseillers, les consuls. J'étais un consul à l'époque, en Kenya. Alors j'ai pris ma femme et mon enfant. Et nous sommes allés à Nairobi. Et après la conférence, nous avons eu cette grande occasion d'aller vers un parc national en Kenya. Et nous étions à le parc Amboseli. Et dans ce parc Amboseli, on a eu un grand regard sur une vallée. Et il y avait aussi à l'horizon, c'était une grande montagne, dans, en Afrique. Et dans cette vallée, il y avait de l'eau et les animaux ils venaient à chaque matin et on a pu voir les éléphants, les lions, les autruches, beaucoup des animaux étaient là, les girafes. Et c'était vraiment un accomplissement de mon cœur que Dieu m'a donné. Ce n'était pas immédiat, ça a pris des années, mais Dieu n'a pas oublié. Et j'ai reçu un désir de mon cœur. Une autre histoire. Ma femme, quand elle était petite, elle était très malade. Et son père a dit que bon, si vous vous rétablissez, je vais te donner un voyage à n'importe quelle place que vous voulez. Et vraiment, ma femme voudrait aller à Paris, en France, mais parce qu'elle a compris que son père n'avait pas beaucoup de finances, elle a dit, OK, je voudrais aller à Chicago. Alors, après qu'elle s'est rétablie, son père l'a amenée à Chicago. Mais des années après, ma femme et moi, nous sommes allés à Paris et j'ai travaillé dans l'ambassade américaine à Paris pour 4 ans. Et c'est un accomplissement de ce désir du cœur de ma femme. Elle a vraiment eu la chance, l'occasion de vivre en France, vivre en Paris. Et c'était vraiment un accomplissement de ce désir de ton cœur. Il y a d'autres histoires qu'on peut dire aussi, mais je crois que ces deux vous donnent une certaine confiance de notre expérience que Dieu entende vos prières. Il entend vos prières. Si vraiment vous essayez de tout votre cœur, vous priez avec tout votre cœur, obéir à Dieu, être un bon exemple, Dieu entend et il est généreux. Il va te donner ce que tu désires, le désir de ton cœur. Aussi, tourne avec moi en Jean chapitre 16, l'évangile de Jean chapitre 16. Comment est-ce que nous pouvons avoir confiance que Dieu va entendre nos prières et va exaucer nos prières? Jean 16, 23. Jean 16, 23. Le Christ dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il faut prier au nom ou par l'autorité de Jésus-Christ. Priez par l'autorité de Jésus-Christ. Et bien sûr, étudiez pour savoir qu'est-ce que Dieu voudrait pour nous d'avoir. D'avoir de bonnes compréhensions de la Bible. Et vous pouvez prier au nom ou par l'autorité de Jésus-Christ. Aussi, normalement, nous devons prier sur nos genoux. Il y a un exemple en Daniel chapitre 6, verset 10. Mais je voudrais aller à Romains chapitre 14, parce que oui, il faut être sur nos genoux, normalement. Toute l'humanité, un jour, sera sur le genou. Nous voyons ça en Romains chapitre 14, verset 11. Romains 14, verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, toute l'humanité va être sur leurs genoux devant l'Éternel. Donc, nous devons normalement prier sur nos genoux. Mais bien sûr, n'importe où, n'importe quand, vous pouvez prier à Dieu selon la nécessité. Selon la nécessité, n'importe où, n'importe quand, vous pouvez prier à Dieu pour son aide, pour la sagesse de Dieu, afin que Dieu vous donne plus de son Saint-Esprit, de sagesse, et vous pouvez demander l'aide de Dieu. Aussi, normalement, fermez votre prière avec le mot « Amen ». Amen. Amen, ce qui signifie ferme ou stable ou vérité. Dans l'Ancien Testament, cela signifie accepter la validité d'un sermon ou constituer une réponse à une bénédiction. Il était également utilisé régulièrement dans le Nouveau Testament à la fin des prières et dans la plupart des livres ou épîtres du Nouveau Testament. En Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, verset 6, Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétiez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Donc, Dieu voudrait entendre vos prières. Il voudrait entendre vos supplications. Et il faut avoir des actions de grâce. Ajouter actions de grâce. Remercier Dieu pour son générosité, pour toute l'aide qu'il nous donne à chaque instant. Donc, Dieu voudrait entendre nos prières. OK, troisième grand point. Nous devons être des prêtres royaux. Tournez avec moi en Apocalypse 5. Apocalypse 5. Je pense que vous avez entendu ou lu cet verset beaucoup de fois. Et simplement pour répéter. Apocalypse 5 et verset 10. Et je m'insère dans ce passage. Verset 10, « Tu as fait de eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » On peut même traduire « des sacrificateurs royaux ». Le grec peut aussi traduire comme cela. Ici, c'est traduit « un royaume et des sacrificateurs », alors « civil et spirituel ». Mais comme j'ai dit, le grec peut aussi être traduit « Tu as fait de eux » des sacrificateurs, un sacerdoce royal, peut aussi une bonne traduction pour notre Dieu. Et il faut faire attention. Nous ne devons pas devenir arrogants parce que Dieu nous a choisis pour être ses prêtres royaux. Nous sommes choisis non pas à cause de notre grandeur, mais pour montrer la grandeur et la gloire de Dieu. Tournez avec moi à 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, et verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous sommes tous un sacerdoce royal. Soit vous êtes homme ou femme, nous sommes un sacerdoce royal. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons remplir la fonction d'un sacerdoce royal, spirituellement parlant. Bien sûr, nous sommes des êtres physiques et dans ce temps maintenant, nous avons des rôles différents. Le même comme dans un mariage, le mari a un rôle différent que la femme. Mais du point de vue spirituel, nous devons tous être un sacerdoce royal, nous devons pratiquer le travail d'un sacerdoce royal, soit nous sommes femmes ou hommes. Tournez avec moi en Hébreux chapitre 4 et nous allons voir quelles sont les responsabilités, quelles sont les choses qu'un sacerdoce royal, un prêtre, doit faire. Hébreux chapitre 4. Hébreux 4 et je commence verset 15. Hébreux 4, verset 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Chapitre 5, verset 1er. « En effet, tout souverain sacrificateur, puis du milieu des hommes, est établi pour les hommes, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Voilà une partie de notre responsabilité comme sacerdoce royal. Du point de vue spirituel, offrir des offrandes spirituelles et des sacrifices spirituels pour les autres, prier pour les autres. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. » Et nous pouvons avoir compréhension pour les ignorants, pour les personnes qui tombent dans les péchés, dans les difficultés, nous pouvons prier parce que nous pouvons tomber nous-mêmes. Il faut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Donc nous devons prier pour notre pardon, pour la miséricorde de Dieu sur nous. Aussi, nous prions pour le pardon et la miséricorde pour les autres personnes. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek ». Nous sommes aussi engendrés par Dieu dans l'Église de Dieu du Nouveau Testament. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc nous devons présenter devant Dieu des prières, des supplications pour les autres. C'est notre responsabilité comme sacerdoce royal. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Un prêtre doit offrir des sacrifices et des dons. Christ a offert des sacrifices, des prières, des supplications et a été entendu. Alors les prêtres doivent prier pour les autres, afin que nos prières personnelles soient entendues. Tenez avec moi en Job, chapitre 42. Job 42. Nous devons prier pour les autres. En Job 42, je commence verset 8. Je commence verset 7. Job 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Alors Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Donc Job a dû prier pour ses amis qui lui ont offensé. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Notez ça bien. C'était quand Job a prié pour ses amis. Alors, à ce moment-là, Dieu a rétabli Job. Nous aussi, nous devons prier pour les autres. Si nous ne prions pas pour les autres, je pense que Dieu ne sera pas dans la même, il ne sera pas dans la même attitude de nous bénir comme nous voudrions si nous ne prions pas pour les autres. Il faut prier pour les autres. Il faut comprendre aussi qu'un sacerdoce royal, les prêtres royaux, peuvent changer certaines actions prévues par Dieu, par la prière. Tournez avec moi en Nombre, chapitre 14. Nombre 14. Nous avons une certaine puissance par la prière avec Dieu. Nombre, chapitre 14, et verset 11. Je commence verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple m'appuiera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Mais réfléchissez un petit peu. Si Moïse a dit, tu sais l'Éternel, je ne les aime pas non plus. Ils sont très terribles envers moi. Allez le détruire. Si Moïse a dit cela, est-ce que nous serons ici aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais qu'est-ce que Moïse a dit quand Dieu était prêt à détruire la nation sauf pour Moïse? Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savent que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, « Oh, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Et l'Éternel dit, « Je pardonne comme tu l'as demandé. » Voilà. La prière de Moïse a changé une action prévue par l'Éternel de détruire toute la nation. C'est vraiment une puissance que nous avons par la prière. Certaines choses, si nous faisons des interventions dans la prière, Dieu peut changer l'idée. Dieu peut changer une action qu'il a prévu de faire. Aussi, Nombre, chapitre 14. Nombre 14. Verset 41. Nombre 14, verset 41. Les enfants d'Israël étaient toujours désobéissants. Et verset 41, « Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers le tente d'assignation, voici la nuée le couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant le tente d'assignation, et l'Éternel parle à Moïse et dit, « Retirez-vous de milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier, mets-y de feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. » Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Cet parfum, c'est un symbole de la prière. Et la prière était entre les morts et les vivants. La prière a sauvé ceux qui étaient de l'un côté de cet brasier. Les autres personnes, à l'autre côté, étaient mortes. Vos prières, est-ce que vous faites des interventions pour des autres personnes? Est-ce que c'est vos prières qui font la différence entre la vie et la mort pour quelqu'un que vous connaissez? Vous avez une grande puissance dans la prière avec Dieu. Si vous allez en Apocalypse 5, la Bible explique ses propres symboles. Apocalypse 5 et verset 8. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saintes. Alors le brasier que Aaron avait avec parfum, c'était un symbole pour les prières des saintes. Symbole de prière des saintes. Les prêtres pêchent si nous ne prions pas pour les autres. Tournez à 1 Samuel, chapitre 12. 1 Samuel, chapitre 12. Quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu n'a pas proposé un système de gouvernance avec un roi humain. Dieu était leur roi et le gouvernement civil était donné aux anciens de chaque tribu. Aussi, il y avait la tribu de Lévi qui était là pour enseigner la loi de l'Éternel et la vraie religion. Mais vous connaissez que Israël n'a pas voulu continuer avec un système avec Dieu comme roi. Ils ont voulu avoir un être humain comme roi. Samuel n'était pas d'accord, mais Dieu a dit, bon, ce n'est pas toi, Samuel, qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Et nous voyons en 1 Samuel chapitre 12, verset 19. Je commence verset 18. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya de ce même jour de tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. Car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Parce que Dieu était déjà leur roi. Ils ont voulu avoir un roi humain. Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous irez après de ces choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nombre, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » C'était un péché si nous cessons à prier les uns pour les autres. Un prêtre doit prier pour les uns les autres. C'est une de nos responsabilités. En conclusion, le temps dans lequel nous vivons appelle à certaines prières spécifiques, je crois, qui sont les plus pertinentes pour cette époque. Jésus a dit de prier pour que votre fruite ne soit pas en hiver ou sur le sabbat. Je pense que nous comprenons que nous pouvons, nos prières peuvent avoir un effet et que Dieu s'y est déjà dit, oh bon, il faut aller à la place du refuge en février, mais voilà, il y a pluvieux, il y a neigeux, c'est très difficile. Si nous prions Dieu, il peut arranger les choses afin que ces choses n'arrivent pas en hiver. Et aussi, par le jour de sabbat, il faut observer le sabbat saint. Jésus a dit, veillez et priez toujours pour que vous soyez jugés dignes d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses. Toutes quelles choses? La tribulation et le jour de l'Éternel. Et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Il faut comprendre que Dieu voudrait pour nous de prier pour le grand privilège, le grand honneur, d'être un de ses serviteurs choisis, de rester debout devant l'Éternel, d'être un serviteur loyal, un serviteur qui apporte le message de Dieu envers l'humanité. Jésus se demandait s'il trouverai vraiment la foi sur la terre quand il reviendrai. Nous avons donc besoin de demander de toute urgence pour plus de foi tous les jours. Nous voulons tous avoir confiance que Dieu considérera sérieusement nos prières. Les attitudes et actions suivantes de notre part contribueront grandement à faire en sorte que nos prières soient entendues et appliquées rapidement. Humilité et repentance. Compassion et miséricorde. Esprit de pardon. Ténacité qui inclut persistance et continuité. La foi et l'attitude d'espoir. Simplicité, manque de prétention. Demandez selon la volonté de Dieu. Et obéissez au commandement de Dieu et faites ce qui lui est agréable. Nous avons vu que nous devrions prier au nom de Jésus ou par son autorité. Nous devons donc étudier pour savoir quelle est la volonté de Dieu et nous y conformer. Nous fermons normalement en prière avec « Amen » ou affirmons la vérité de ce que nous avons dit. Nous pouvons prier à tout moment, n'importe où. Le but, c'est le respect profond et l'humilité. En tant que prêtre royal, la prière est l'une de nos fonctions essentielles. Priez pour les autres, pour que nos prières personnelles soient entendues. Comprenez que les prêtres peuvent changer certaines actions prévues par Dieu par la prière. Les prêtres peuvent pécher si nous ne prions pas pour les autres. Faisons toute notre fonction de prêtre royal de prier pour la nation, les uns pour les autres, et pour les sujets que nous avons couverts et qui sont très pertinents par rapport à notre époque. Prions avec joie, confiance et foi grandissante.